Villiers de l'île Adam, Histoires insolites, La maison du bonheur. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Charles Baudelaire, l'invitation au voyage. Deux beaux êtres humains se sont rencontrés à cette heure des années qui précèdent le tombé merveilleux de l'automne. À cette heure où, telle que sur de riches forêts après une ondée d'orage, l'étoile du soir, la mélancolie se lève, illuminant de mille teintes magiques toutes les âmes bien nées. Autrefois, ô souvenance déjà lointaine, ces deux âmes, dès les premières aurores, apparurent natalement blanches et douées à l'état nostalgique d'une sorte de languide passion pour les seules choses du ciel. On eût dit d'éternels enfants destinés à mourir comme les oiseaux s'envolent, et que le lys du matin serait la seule fleur oubliable sur leur chaste tombe. Mais ils étaient prédestinés à vivre, et l'humanité est venue avec ses luttes et ses stupeurs. Elle et lui, l'un de l'autre isolés par le hasard des villes et des contrées, grandirent en des milieux parallèles sans se rencontrer jamais. Au cours de l'existence et sous tous les cieux, ils eurent donc à subir le salut des passants polis, aux yeux sourieurs, aux airs sagaces, aux admirations officielles, aux jugements d'emprunt, aux préoccupations oiseuses, aux riens compassés, aux cœurs uniquement lascifs, aux politiques visées, aux cœurs de mieux éloges, et dont les présences très distinguées dégagent une odeur de bois mort. Ah, c'est que tous deux avaient, comme nous, reçu le jour au sein triste de ces nations occidentales, lesquelles, sous couleur d'établir enfin sur la terre le règne régulier de la justice, vont se dénuant à plaisir de ces instincts de l'en haut, qui seuls constituent l'homme réel, et préfèrent s'aventurer librement désormais, au gré d'une raison désespérée, à travers les hasards et les phénomènes, en payant chaque découverte d'un endurcissement plus sourd du cœur. Au spectacle environnant de cet effort moderne, le plus sage, humainement, aux yeux du moins des gens du monde, ne serait-ce pas de se laisser vivre en vague curieux, n'acceptant des années que les sensibilités intellectuelles ou physiques, et sans autre passion que celle du plus commode éclectisme. Cependant, Paul de Lucange, ainsi que le duc Valeran de la Villetard, dès leur juvénilité, commencèrent à ressentir beaucoup d'étonnement de faire partie d'une espèce où le dépérissement de toute foi, de tout désintéressé, enthousiasme, de tout amour noble ou sacré, menaçait de devenir endémique. Aucun passe-temps ne pouvait les distraire de l'humiliant déplaisir qu'ils en éprouvèrent, encore presque enfants, sans toutefois le laisser transparaître à cause d'une sorte de charité très douce dont ils étaient essentiellement pénétrés. Paul, svelte en sa beauté d'hypatie chrétienne, était de la race de ces mondaines au cœur de Vestale qui préservaient mieux que les Sandes, les Sappho, les Sévigné, même où les Stales de la vanité d'écrire, gardent très pure la lueur virginale de leur inspiration pour un seul élu. Lui ne se distinguait en apparence du commun des personnes de bonne compagnie que parfois, par un certain coup d'œil bref, très pénétrant, un peu fixe, et dont l'indéfinissable impression dissolvait ou inquiétait autour de lui les plus banales insouciances. Tous deux, ainsi, voilaient, sous les irréprochables dehors qu'imposent les convenances aux êtres bien élevés, les géniales facultés de méditation dont leur Créateur avait doté leurs esprits solitaires. Et de jour en jour, ces singuliers adolescents autant que les despotiques devoirs d'un rang dont ils s'honoraient le leur pouvaient permettre, s'éloignaient de ces mille distractions si chères d'habitude à la jeunesse élégante. Ne perdaient-ils pas les heures dorées de leur printemps en de trop songeuses et sans doute stériles réflexions touchant, par exemple, ces nébuleux problèmes, réputés insignifiants, ennuyeux ou insolubles, et auxquels cependant une bizarre particularité de conscience les contraignait de s'intéresser? Peut-être, mais il leur apparaissait qu'autour d'eux, par exemple, l'esprit de nos temps en travail, qui s'efforce d'enfanter pour la gloire d'un prestigieux avenir le monstre d'une chimérique humanité décapitée de Dieu, les mettaient en demeure eux aussi, en ce qui concernait l'humain de leurs êtres, d'opter au plus secret de leurs pensées entre leurs ataviques aspirations et lui, le récent idéal, ce progressif bien-être toujours proportionnel aux nécessités des pays et des âges, et dans chaque degré suscitant des soifs nouvelles, atteste l'illusoire indéfini, par conséquent la fatale démence d'y confiner notre but suprême, ne sut éveiller leurs intelligences qu'une indifférence vraiment absolue. L'orgueilleux bagne d'une telle finalité ne pouvait en effet séduire ou troubler même un instant ces deux consciences qui, tout éperdues de lumière et d'humilité, se souvenaient de leur origine. Et ces réalités de bâton flottant, en qui se résolvent d'ordinaire les fascinants mirages à l'aide desquels le vieil opium de la science dessèche les yeux des actuels vivants, ces conquêtes de l'homme moderne, enfin, leur semblaient infiniment moins utiles que mortellement inquiétantes. Étant remarqué surtout le quasi-simiesque atrophiement du sens naturel qu'elles coûtent et l'espèce d'ossification de l'âme qu'elles entraînent, imbues d'un atavisme qui, en réalité, commençait à Dieu, ils se fussent, ou même affamés, refusés d'instinct, certes, à céder, malgré l'exemple, les droits sacrés de leur aînesse, consciente contre toutes les pâtées de lentilles vénéneuses dont impérissable actualisme eût tenté de séduire leur inanition. Quant à cet avenir dont une église de rhéteurs têtus prophétisait la perdurable et sublime rutilance, ces deux jeunes gens hésitaient à s'infatuer au point de par trop oublier, ainsi qu'en fin de compte, ne fût-ce qu'au témoignage criard de ces 26 changements à vue dont ne cesse de nous assourdir sous nos pieds la menaçante géologie, et en passant même sous silence les fort troublantes révélations de l'astronomie moderne, l'univers attesta maintes fois inopinément être une salle trop peu sûre pour que l'on dût caresser une minute l'idée de jamais pouvoir s'y installer définitivement. En sorte que tous les clinquants intellectuels de la science, toutes les boîtes de jouets dont se paye l'âge mûr de l'humanité, tous les bondissements désespérés des impersuasives métaphysiques, tout l'hypnotisme d'un progrès, si magnifiquement naturel, éclairé par la providence d'un Dieu révélé et sans lui d'une vanité si poignante, non, tout cela ne leur paraissait pas aussi sérieux et aussi utile en substance que le tout simple et natal regard de l'homme vers le ciel. Socialement, toutefois, il leur était difficile en eux-mêmes de condamner à l'étourdi l'évidence de cet effort de tous vers la grande justice, vers une équité meilleure, enfin, que celle dont se lamente le passé. Mais les résultats très précis, obtenus en appliquant ces théories humanitaires, empruntées d'ailleurs à l'éternel christianisme, semblaient jusqu'à présent, il fallait bien se l'avouer, singulièrement en désaccord avec les admirables intentions de leurs partisans. Comment ne pas reconnaître, en effet, que les plus libres, les plus fiers et les plus jaloux de la liberté parmi les peuples sont ceux-là même qui, les longs fouets ensanglantés au poing, supplicient le plus leurs esclaves, savent humilier le mieux leurs pauvres, et entre les forfaits à commettre, ne préfèrent jamais que les plus vils. Comment éviter, par tout pays, le spectacle de ces triomphantes lupercales où les majorités, au patriotisme si lucratif, aux éloquences foraines, exultent si gravement et dont la sereine servilité, giratoire seulement aux uniques souffles de ces trahisons écœurantes, philosophiquement situées au-dessous de toute pénalité comme de tout dédain, affirme outre mesure en quelle désespérance inanité s'aplatissait révolution. Et pour conclure, comment ne pas comprendre sans effort qu'étant donné la loi de l'innée disposition des intelligences en leur diversité d'aptitudes, le prétendu règne d'une justice purement humaine ne saurait être jamais que la tyrannie du médiocre, s'autorisant gaiement de quoi? Du nombre, pour imposer l'abaissement à ceux dont le génie, constituant seul l'entité même de l'esprit humain, a seul le droit divin, qualité pour en déterminer et diriger les légitimes tendances. Mais, sans dénier, juger la mode actuelle des idées septentrionales, le noble songeur et la belle songeuse, détournant les yeux, autant qu'ils le pouvaient, de l'énigmatique performance terrestre, résumaient toujours leur méditation en cet ensemble de pensées. Qu'importe à la fois réel le vain scandale de ces poignées d'ombre, demain disparues pour faire place à l'équivalent fantôme. Qu'importe qu'elles détiennent aujourd'hui comme hier, comme demain, l'écorce matérielle d'un pouvoir dont l'essence serait inaccessible. Nul ne peut posséder d'une chose que ce qu'il en éprouve. Si cette chose est belle, noble, enfin divine d'origine, et qu'il soit lui d'essence vile, c'est-à-dire d'une prudence d'instinct nécessairement obéissante, la beauté, la noblesse, la divinité de cette chose, s'évanouissant immédiatement au seul contact du violateur, il n'en possédera que son intentionnelle profanation, bref, il y retrouvera, comme en toute chose, que la vilenie même de son être, que l'écœurante, éclairée et bestiale médiocrité de son être, rien de plus. Donc, il n'y a pas lieu de s'en irriter. Tel s'attristant peut-être quelque peu de ces fatalités de leur époque, mais sans oublier qu'il fut des siècles pires, et se recueillant chaque jour en ces visions que l'art le plus élevé sait offrir au cœur chaste des solitaires, ces deux promis de l'espérance, au défi des années, s'attendaient. Cette disparité de nature entre eux et la plupart des dignes vivants de nos régions, ils ne l'avaient pas constatée au début de la vie, non. Ces êtres d'au-delà s'étaient refusés longtemps à se rendre, même aux évidences les plus affreuses, où les considérant comme passagères, les avaient pardonnés avec une indulgence jamais lassée. Les regards encore éblouis des reflets antérieurs à leurs yeux charnels, comment eussent-ils démêlé à première vue de quel enfer foncier se constitue la banalité sociale? C'est pourquoi leur sensibilité crédule, tout imbue d'angéliques larmes, fut incessamment surprise alors et partagea mille mensongères ou si médiocres douleurs que celles-ci étaient indignes d'un tel nom. Longtemps il suffit autour d'eux de sembler dans une affliction pour que ces cœurs inextinguibles devinssent réchauffants et prodigues et consolateurs. Ah, se dévouer, s'oublier, quelle joie d'ange penchée sur ceux que l'on abandonne. Qu'importe si le plus souvent ceux-ci ne daignent se souvenir des anges que pour en critiquer toujours un peu tard l'humiliante irréalité. Ainsi rayonna leur charité, ce passe-temps divin des justes, même sur ces assoiffés d'amusement dont le propre de témoigner une sorte de rabique aversion au seul ressentir, même obscur, de toutes approches d'âme souveraine. Tant l'idée seule que celles-ci puissent encore exister leur semble insupportable, fatigante et révoltante. Oui, tous deux eurent la bienveillance de toujours se tenir éloignés de ce genre de personnes pour leur épargner l'ennui de cette sensation toute naturelle. Mademoiselle de Lucange et le duc de la Villeréa subirent donc, chacun de leur côté, cette existence, jusqu'au jour mortel où tous deux, presque en même temps, s'aperçurent que les suffocantes bouffées émanant des lourds ébats de cette médiocrité universelle avaient répandu la contagion jusque sur leurs proches, leurs frères, leurs égaux, la plupart de leurs princes et de leurs prêtres. Alors un froissement terrible d'âme les glaça, leur causa cette sorte de lassitude sévère qu'un dieu martyr seul peut surmonter devant le reniement de son disciple. Humiliés de se sentir quand même solidaires de cet envahissement si près de monter, une tentation d'inespérance les prit, troubla leur cœur sacré et peu s'en fallut qu'elle n'assombrit même au plus secret de leur croyance jusqu'au sentiment de Dieu. Elle ni lui n'étaient en effet du nombre de ces esprits créateurs, trempés de manière à tenir tête fût-ce au scandale de toute l'humanité, et dont le fulgurant souffle d'infini refoulerait les plus rugissantes rafales. Non, ce n'étaient que deux exquises intelligences merveilleusement douées que cette qualité d'épreuve fit fléchir comme deux fleurs sous la pluie. Ils ne se plaignirent pas. Seulement, ce devinrent bientôt deux âmes en deuil, désenchantées même du sacrifice, et dont aucune fête ne pouvait augmenter ou diminuer le royal ennui amer. Maintenant, ils n'ont plus soif que d'exil. Plaindre, mais comment juger? Que sert d'ailleurs? Instant perdu, un besoin d'adieu les étouffe, et voilà tout. Ils pensent avoir gagné le droit d'oublier. À peine s'ils daignent voiler parfois sous la pâleur d'un sourire leur indifférence morose. Devenus d'une clairvoyance inconsolable, ils portent en eux leur solitude. Ne pouvant plus se laisser décevoir, entre eux et la foule sociale, la misérable comédie est terminée. Aussi, dès l'instant conjugal où le destin les a mis en présence, ils se sont reconnus d'un regard et se sont aimés sans parole de cet irrésistible amour, trésor de la vie. Oh, s'exiler en quelque nuptiale demeure pour sauver du désastre de leur jour au moins en automne une délicieuse échappée de bonheur aux teintes adorablement fanées, une mélancolique embellie. Jaloux de leurs secrets, sûrs de leurs pensées, ils se sont écrits. Disposition prise, ils partent, ils disparaissent. Devant se retrouver, non dans un de leurs lourds châteaux, où des visiteurs encore, mais en cette retraite bien inconnue, qu'ils ont choisie et noblement ornée, au goût de leurs âmes, pour y cacher leur saison de paradis. La maison du bonheur domine une falaise là-bas au nord de France, puisqu'enfin c'est la patrie. Elle est enclose des murs verdoyants d'un grand jardin, formé d'une pelouse toute en fleurs, au centre de laquelle, entre des saules et des grises statues, retombe en un bassin de marbre l'élan s'effusé de neige d'un jet d'eau. Deux latérales allées, le trait aux arbres obscurs, se prolonge solidairement. La solennité, le silence de cette habitation sont doux et inquiétants comme le crépuscule. Là, c'est un tel isolement des choses. Un rayon de l'Occident sur les fenêtres, empourpré tout à coup de la blanche façade. La chute d'une feuille qui, de la voûte d'une allée, tombe en tournoyant sur le sable, ou quelques refrains de pêcheurs au loin, ou telle fuite plus rapide des nuages de mer, ou la senteur soudain plus subtile d'une touffe de roses mouillées qu'effleure un oiseau perdu, mille autres incidences, ailleurs imperceptibles, semblent ici comme des avertissements tout à fait étranges de la brièveté des jours. Et lorsqu'ils en sont témoins, en leur promenade, les deux exilés, alors qu'une causerie heureuse unit leurs esprits sous le charme d'un mutuel abandon, voici qu'ils tressaillent, ils ne savent pourquoi. Pensifs, ils s'arrêtent. Le ton joyeux de leurs paroles s'est dissipé. Qu'ont-ils donc entendu? Seuls, ils le savent. Ils se pressent l'un à l'autre la main, comme troublés d'une sensation mortelle. Et le visage de la bien-aimée s'appuie languissamment sur l'épaule de son ami. Deux larmes tremblent entre ses cils et roulent sur ses joues pâlissantes. Et quand le soir bleuit les cieux, un serviteur taciturne, ancien dans l'une de leurs familles, vient allumer les lampes dans la maison. Mais la bien-aimée, oh, les femmes sont ainsi, se plaît à s'attarder par les fleurs sur la pelouse, au baiser de quelques corolles déjà presque endormies. Puis ils rentrent ensemble. Oh, ce parfum d'ébène, de fleurs mortes et d'ambres faibles, qu'exhale dès le vestibule la douce demeure. Ils se sont complus à l'embellir jusqu'à l'avoir rendu un véritable effet de leur rêve. Auprès des tentures qui en séparent les pièces, des marbres aux pures lignes blanches, des peintures de forêt, et, suspendus aux tapisseries anciennes des murailles, des pastels dont les visages sont pareils à des amis défunts et inconnus. Sur les consoles, des cristaux, autant de pierres précieuses, des verreries de Venise aussi, aux couleurs éteintes. Çà et là, cloués en des étoffes d'Orient, luisent en éclairs livides incrustés d'un très vieil or, les trophées d'armes surannées, dans les angles de grands arbustes des îles. Là, le piano d'ébène, dont les cordes ne résonnent comme les pensées que sous des harmonies belles et divines. Puis des étagères où, laissés ouverts sur la soie mauve des coussins, des livres aux pages savantes et berceuses qui relisent ensemble et dont les ailes invitent leurs esprits vers d'autres mondes. Et comme nul ne possède en effet que ce qu'il éprouve et qu'ils le savent, et que ce sont deux chercheurs d'impressions inoubliables, ils vivent là des soirées dont le charme oppresse leurs âmes d'une sensation intime et pénétrante de leur propre éternité. Souvent, regardant l'ombre des objets sur les tentures séculaires, ils détournent les yeux sans cause intelligible. Et les sculptures sombres, alentour de quelques grands miroirs, dont l'eau bleuâtre reflète le scintillement tout à coup d'un astre à travers les vitres, et l'inquiétude du vent froissant au dehors dans l'obscurité les feuilles du jardin, et les solennelles, les indéfinissables anxiétés qu'éveillent en eux lorsque leur sonne distincte et sonore les mystères de la nuit, tout leur parle autour d'eux, cette langue immémoriale du vieux songe de la vie, qu'ils entendent sans peine grâce à leur recueillement sacré. Tels, ne laissant point la dignité de leurs êtres se distraire de cette pensée qu'ils habitent ce qui n'a ni commencement ni fin, ils savent grandir de toute la beauté de l'occulte et du surnaturel, dont ils acceptent le sentiment, l'intensité de leur amour. Ainsi, prolongeant les heures délicieusement en causeries exquises et profondes, en étreinte où leurs corps ne seront plus que celui d'un ange, en suggestive lecture, en chants mystérieux, en joie délicieuse, ils puiseront de toujours nouvelles sensations de plus en plus vibrantes, extramortelles. Et c'est de solitude qu'un si petit nombre de leurs semblables se soucieraient de jalouser, incarnant enfin toute la poésie de leurs intelligences dans sa plus haute réalisation, leurs aurores et leurs jours, et leurs soirs et leurs nuits seront des évocations de merveilles. Leurs cœurs, passionnés d'idéal autant que d'éperdus désirs, s'épanouiront comme deux mystiques roses d'Idumée, satisfaites d'embaumer les hauteurs natales à quelque vague distance même, hélas, des Jérusalem, en terre sainte pourtant. De même que libres, ils ont distribué simplement et de la manière la plus discrète la presque totalité de leur vaste et austère fortune à un de ces déshérités. Qu'en véritables originaux, ils se sont donné la peine de chercher avec un choix patient. De même, hostiles à toutes emphases, ils n'ont éprouvé nullement le besoin de se jurer qu'ils ne se survivraient pas l'un à l'autre, non. Seulement, ils savent très bien à quoi s'en tenir là-dessus, au parfait dédain de tout ce qui les a déçus, loin du désenchantement brillant de leur monde d'autrefois. Ils ont jeté d'un regard à leur ex-entourage, oublié déjà, l'adieu glacé, suprême, claustral, que la mélancolie de leur joie grave ne regrettera jamais. Ils sont ceux qui ne s'intéressent plus, ayant compris une fois pour toutes de quelle atroce tristesse est fait le rire moderne, de quelle chétive fiction se repaît la sagesse purement terre à terre, de quel bruissement de hochets se puérilisent les oreilles des triviales multitudes, de quel ennui désespéré se constitue la frivole vanité du mensonge mondain. Ils ont, pour ainsi dire, fait vœu de se contenter de leur bonheur solitaire. Oui, ces augustes êtres exceptionnels, s'estimant avoir gagné la paix, seront conservés inviolables la magie de leur isolement. Persuadés, non sans d'inébranlable motif, que l'unique raison d'être, en laquelle cherchent fatalement à réaliser leur semblance, de ceux-là qui, errants et froids, ne peuvent être heureux, consiste à troubler d'instinct, s'il leur est possible, le bonheur de ceux-là qui savent être heureux, ces divins amants, pour sauvegarder la simplicité de leur automnale tendresse, se sont résolus à l'égoïsme d'un seul strictement ignoré, strictement fermé, inhospitalier plutôt. Jamais ils ne profaneront le rayonnement intérieur de leur logis, ni les présences, qui sait, des familiers. Esprits émus de leur souverain amour, en admettant chez eux, ne fût-ce que par quelque hasardeux soir d'ouragan, tel banal, voire illustre étranger, ils ne risqueront sous aucun prétexte du destin le calme de leur indicible, à jamais imprécis, et par conséquent immuable ravissement. Plus sages que leurs aïeux de l'Éden, ils n'essaieront jamais de savoir pourquoi ils sont heureux, n'ayant pas oublié ce que coûtent ces sortes de tentatives. Au reste, ne désirant d'autrui que cette indifférence dont ils espèrent s'être rendus dignes, il se trouve qu'un assentiment inconscient du monde la leur accorde volontiers. Bref, sous leur toit d'élection, ayant, paraît-il, mérité d'en haut ce privilège, devenu si rare de pouvoir se ressaisir quand même dans l'immortel, ces deux élus, magnifiques bien qu'un peu pâles, sauront défendre attentivement, c'est-à-dire en connaissance de cause, contre toutes atteintes sociales, leur tardive félicité.